La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Si je vous donne comme mot-clé flexibilité, performance, mission, organisation par projet, burn-out, incentive, mérite, agence d'État, management, ressources humaines, autonomie. Et pour finir, le fameux « faire plus avec moins ». De quoi pensez-vous que nous allons aujourd'hui parler à la suite dans les idées ? Eh bien de nazisme avec l'historien Johan Chapoutot. De nazisme et de management avec l'historien Johan Chapoutot, mais aussi avec Christian Salmon. Du nazisme jusqu'à Hollywood, nous allons parler de méthodes de management, du storytelling. Il sera question dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Johan Chapoutot, vous êtes historien, professeur d'histoire. Vous publiez aux éditions Gallimard dans la collection Essais d'Éric Vigne, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Alors, ça peut surprendre, j'ai volontairement ouvert cette émission par un chapeau qui surprend. D'emblée, évacuons tout de suite un malentendu. Il ne s'agit pas, bien évidemment, pour vous et pour nous ici aujourd'hui, de dire que les origines du management sont à trouver dans le nazisme. C'est pas du tout votre propos, Johan Chapoutot.
Non, ça l'est d'autant moins que je le dis dans le livre. Les manuels d'enseignement du management aujourd'hui font très justement remonter la naissance de la discipline à l'ingénieur français Henri Fayol. Donc il y a une préhistoire du management qui n'a absolument rien à voir avec le nazisme, mais il reste tout de même que la période nazie fut un moment de réflexion, de pratique managériale, tout simplement parce qu'il y avait des nécessités d'organisation productive et d'organisation également des structures administratives.
Alors, faut le rappeler aussi, vous êtes un historien qui a beaucoup travaillé sur cette période et sur ce pays, sur le nazisme. Vous y avez consacré de nombreux ouvrages. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui soudainement découvre le nazisme et qui aurait travaillé sur le management et qui se rend compte qu'il y a des choses intéressantes pour comprendre le management. C'est le chemin inverse que vous faites.
Oui, absolument. C'est ce que j'explique également dans le livre. Le projet de ce livre est né de la forme de stupéfaction ou d'étonnement que j'ai pu ressentir à retrouver les mots que vous citiez dans votre introduction dans des sources nazies, tout simplement parce que de fait il y avait encore une fois des nécessités d'organisation dans un Reich qui se voulait en dilatation permanente et en réarmement également pour mener une guerre que le Reich voulait finale, voulait terminale. Donc ces nécessités productives puis cette adaptation nécessaire des structures administratives à la dilatation absolument inédite du territoire du Reich nécessitait effectivement une réflexion sur l'organisation.
Alors tous ces mots que j'ai cités, effectivement, on les trouve dans des sources historiques, c'est assez stupéfiant. Ils sont pas organisés comme une théorie, ça viendra plus tard, et ça viendra à travers un certain nombre de figures, l'une en particulier que vous suivez de près, et on va y venir. Mais ce qu'il y a de passionnant dans ce travail historique que vous avez mené, Johan Chapoutot, c'est qu'il nous permet de casser un certain nombre de clichés, de représentations communes à l'égard du nazisme, et en particulier de la manière dont fonctionne ce pouvoir politique, au fond, est associé au nazisme à travers les images, notamment, qu'on en a, des formes d'organisation extraordinairement rigides, hiérarchisées, et puis une présence de l'État qui nous semble quelque chose de très important, tout simplement parce que le mot totalitaire nous fait penser à État totalitaire. Donc on pense que le nazisme, c'est ça, un État totalitaire qui est très hiérarchisé, très structuré. Or, quand on regarde de près comment ça tient, comment ça marche, comment ça se construit, eh bien, on se rend compte qu'il faut vite se déprendre de ces représentations pour vraiment comprendre ce qu'est le nazisme.
Oui, concrètement, quand on voit comment ça fonctionne, c'est un chaos et une cacophonie permanente. Les historiens ont d'ailleurs forgé le concept de polycratie dès les années 50 pour bien montrer que le nazisme n'était absolument pas une forme de jacobinisme extrême, parfaitement pyramidal, géométrique, hiérarchisé, centralisé, mais au contraire une multiplicité de centres d'initiative, de décisions et de formulations idéologiques d'ailleurs, qui étaient très souvent en concurrence les unes avec les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que les historiens l'ont constaté en pratique, mais ils n'ont pas forcément toujours vu, voire pas du tout, que cela était aussi une pratique théorisée et voulue. C'est une forme de darwinisme administratif, au sens vulgaire et incorrect évidemment du darwinisme, dans le sens du darwinisme social, une forme de mise en concurrence permanente, voulue, pour aboutir à chaque fois à la solution la plus radicale, la plus violente, et de fait c'est ainsi que cela fonctionne. Et parmi les gens qui théorisent en temps réel, au moment où ça se passe, ces choses-là, eh bien il y a des très hauts fonctionnaires, juristes généralement, et très diplômés, un docteur de l'université, qui sont des hauts fonctionnaires de la SS et qui réfléchissent à l'adaptation des structures à la fois productives et administratives dans le cadre notamment de cette revue fondée en 1941 par trois très hauts gradés de la SS, cette revue qui s'appelle Empire, Ordre Racial, Espace Vital, dans laquelle très concrètement on a des articles parfois assez peu passionnants d'organisation très précise du bureau et du rapport avec le secrétariat par exemple pour administrer un territoire gigantesque en Biélorussie par exemple.
Ce que vous montrez dans votre livre, Yoann Chapoutot, c'est que cela tient à la fois à des raisons ou à des racines idéologiques, mais aussi à des contingences, à des problèmes très pratiques auxquels est confronté ce pouvoir politique, notamment dans sa phase d'expansion, parce que les moyens ne sont pas extensibles pour le coup, et qu'il faut trouver des solutions très concrètes.
C'est ça. Alors, en théorie comme en pratique, dans l'idéologie comme dans la pratique quotidienne, l'État apparaît comme totalement obsolète, intempestif, inadapté. Alors, du point de vue de l'idéologie, l'État pour les nazis est une importation étrangère, une importation allogène. C'est une création du bas empire romain enjuivé, mélangé racialement, qui a été ensuite diffusé à l'Occident par l'évangélisation catholique, et puis ensuite par les conquêtes de Louis XIV et de Napoléon. Donc tout cela est étranger, c'est catholique, c'est impérial romain et c'est français. L'organisation raciale des Germains, selon les nazis, est une organisation totalement spontanée et immédiate, sans médiation vis-à-vis de son propre corps, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis non plus de l'autre. C'est une organisation un peu spontanéiste, celle de la tribu, du clan germanique, qui s'administre lui-même et qui peut s'administrer lui-même parce que il est composé de gens qui sont sains d'esprit et de corps. Il n'y a que les malades physiques et mentaux qui ont besoin d'une loi, d'un cadre, d'un carcan extérieur rigide sous la forme d'un corpus de normes, le Deutéronome ou le Décalogue par exemple, ou sous la forme d'un État. Donc ça c'est pour l'idéologie. Pour la pratique, eh bien les nazis se sont aperçus très rapidement que une fonction publique telle qu'elle est héritée de la Prusse frédéricienne, de l'Empire bismarckien et de la République de Weimar, une fonction publique, c'est un corps de fonctionnaires avec un habitus professionnel et c'est également un corpus de normes. Et la fonction publique a le mauvais esprit, toujours, de respecter les procédures. Et ça ne va pas pour les nazis, pour lesquels il faut un choc de simplification, comme on l'a dit ces dernières années sous d'autres cieux, un choc de simplification, c'est-à-dire une forme de levée de toutes les entraves normatives pour permettre le libre écoulement des flux vitaux. Le flux du sang, cette dynamique qui doit s'opposer à la statique précisément de l'État. Et c'est pour cela qu'il
y a un discours anti-bureaucratique, on peut le dire comme ça. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs le régime ne sera pas rattrapé par la bureaucratie, mais ça c'est une autre histoire.
Oui, alors la répudiation de la bureaucratie est permanente et elle est très violente pour des raisons tout simplement à la fois idéologiques comme je l'ai montré, mais également pratiques, parce que les fonctionnaires ce sont ceux qui vous entravent, vous retardent, qui respectent les procédures et qui ratent le train, ou plutôt le flux de la vie, ce flux vital. Et c'est pour cela que l'État doit être pulvérisé, véritablement. Il doit être non seulement déconstruit, mais détruit. Et c'est à cela que les nazis travaillent dès 1933, par une multitude de procédés, dont le plus efficace et le plus théorisé est la multiplication des agences. Des agences qui sont, elles, non pas pérennes et statiques, mais qui sont mobiles et temporaires, puisqu'elles sont caractérisées par un projet, par un budget et par une mission. Et on constate très concrètement que les agences prolifèrent à partir de 1933 dans l'Allemagne nazie pour répondre aux besoins du moment.
Alors ça, en lisant ça sous votre plume, Yoann Chapoutot, ça a fait un écho incroyable à un livre co-signé récemment par deux chercheurs qui sont venus en parler ici, il y a quelques mois, Antoine Vaucher et Pierre France, un livre dans lequel ils montrent comment la multiplication de ces agences dans la République française aujourd'hui nous met dans une situation où il est impossible finalement de tracer le périmètre de l'État, et où là où autrefois pendant très longtemps on pouvait dessiner le diagramme hiérarchique de l'organisation de l'administration française avec des directeurs, des sous-directeurs, des bureaux, etc., et des ministères. Aujourd'hui, c'est devenu impossible et l'État lui-même n'a plus de représentation correcte du territoire, du périmètre, des domaines qu'il couvre. Il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup d'intersections, il y a beaucoup de conflits de compétences qui est le résultat de la prolifération de ces agences. On a là une manifestation de ce qu'on appelle aussi le New Public Management qui puise ses racines dans ces moments intellectuels que vous décrivez, Yoann Chapoutot.
Oui, alors c'est intéressant parce que en droit public et en droit administratif, l'agence est apparue au 19e siècle précisément pour répondre à des missions nouvelles que l'administration de l'État ne pouvait pas satisfaire. Mais c'était des agences sous la forme d'office, par exemple l'Office national des forêts, vous voyez, qui était pérenne. Le New Public Management dans les années 70 a changé les choses puisqu'il s'agissait, en bonne orthodoxie nazie, puisque les nazis disaient exactement la même chose, d'avoir des agences mobiles, rapides, temporaires, flexibles et rapidement obsolètes. Et donc la définition de l'agence a complètement changé entre la théorie du droit administratif du 19e siècle qui a créé cette notion-là et le New Public Management que les nazis ont pensé eux-mêmes avec 40 ans d'avance au fond dès les années 30. Et le fait qu'on ne puisse plus clairement dessiner le périmètre de l'État et que cette prolifération des agences s'oppose à la structure d'organigramme que vous avez évoqué, eh bien c'est voulu et c'est intéressant parce que les juristes nazis ne cessent dans les années 30 et 40 de se gausser ou de critiquer violemment l'organisation française. Pour eux, la France, c'est l'horreur absolue, c'est l'horreur administrative parce que c'est cartésien.
Cette France de la Troisième République hein, qui est...
Et Napoléon, il y a Napoléon et en amont il y a Louis XIV et derrière tout ça il y a l'Église catholique, il y a l'Empire romain, enfin bref, tout ce qui est étranger et qui est mauvais, tout ce qui est juif également, à leurs yeux. Pour eux, la France est l'antimodèle absolu. C'est la race des Aktenfresser, des mangeurs de dossiers, hein, des gens qui se complaisent dans les dossiers et dans la poussière. Donc, dans quelque chose qui est totalement abstrait, Lebensfremd, étranger à la vie, hostile à la vie, et qui est donc cartésien et pyramidal. Pour eux, c'est une organisation militaire rigide qui n'a aucun sens. Il faut de la flexibilité, au contraire, il faut du mouvement, il faut de la dynamique, puisque la dynamique, c'est le flux vital, c'est le flux sanguin, c'est la vie.
Alors, qui sont ces juristes auxquels vous vous êtes intéressés? Ils sont jeunes, pour la plupart. Et ils ont peut-être aussi un problème d'insertion sur le marché du travail, pour certains.
C'est exactement la raison pour laquelle ils se jettent dans les bras des nazis à la fin des années 20, parce qu'ils terminent leurs études, en gros, au début des années 30, au moment où leurs brillantes études leur ouvrent la perspective très riante du chômage. Les nazis sont ceux qui vont les démarcher, tout simplement parce qu'ils ont besoin de ressources humaines, hein, comme on disait à l'époque et comme on dit encore aujourd'hui avec cette expression qui est atroce quand on y songe, hein, mais on n'y songe jamais justement. Donc ils ont besoin de ressources humaines, disent-ils, pour précisément, eux, remplir leur organigramme et armer la SS, la Gestapo, le SD. Donc ils recrutent, hein, et ils disent très clairement à ces jeunes diplômés, venez chez nous, vous aurez un uniforme et un salaire, et puis... Demain, nous vous donnons les clés de l'Allemagne, et après-demain, si tout va bien, nous vous donnons les clés de l'Europe. C'est exactement ce qui s'est passé, et ces jeunes gens, ces jeunes trentenaires brillants, hein, intellectuellement et également dans la Geschäftsführung, c'est-à-dire dans la pratique des administratives, de la direction de service, ces gens-là ont fait des carrières splendides.
Alors, ils ont fait des carrières splendides jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pour certains d'entre eux, ils ont fait des carrières splendides après la Deuxième Guerre mondiale.
Alors c'est ça qui est étonnant parce que bon, vous savez que nous avons construit, parce que nous en avions besoin pour faire l'Europe, nous avons construit un mythe qui est celui de la dénazification. Bon, et la dénazification, elle a eu lieu effectivement en RDA pour des raisons idéologiques et on va dire structurelles et qui ont conduit les cadres communistes à éliminer ceux qui avaient été leurs bourreaux. Hein. Donc là, effectivement, il y a eu une forte purge en RDA, mais en RFA, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu des procédures administratives, pénales, qui ont touché un certain nombre de milliers de personnes, mais très rapidement, on entre en guerre froide, en gros, dès l'été 45, hein. Officiellement, c'est en 47, mais ça vient beaucoup plus tôt. Et à partir, en tout cas, dès 1947, il n'y a plus aucune procédure de poursuite dans la zone américaine, par exemple, à l'égard des anciens nazis. On veut combattre le communisme, et pour combattre le communisme, le meilleur instrument, c'est quand même un nazi. Eh bien, On emploie, c'est pour ça que Klaus Barbie, le gestapiste de Lyon, devient un correspondant de l'OSS et de la CIA en Allemagne. Et c'est pour ça aussi que ce monsieur, Reinhard Höhn, donc un de mes anti-héros dans ce livre, général SS, grand penseur de l'organisation des structures et de la colonisation à l'Est, eh bien, devient employé d'un think tank patronal qui lui confie, qui le mandate pour créer une école de commerce qui serait l'équivalent de la Harvard Business School en Allemagne.
Alors d'ailleurs, vous dites qu'au fond, ceux qui réussissent leur reconversion après la guerre sont ceux qui n'ont pas essayé de changer de nom, de fuir, de disparaître. Lui, au fond, il reste en Allemagne.
Oui, alors l'art de la fugue a été pratiqué de manière très différente selon les personnes, mais pour ceux qui n'ont pas directement de sang sur les mains, ce qui est le cas de Reinhard Höhn, mais ce qui n'est pas par contre le cas de certains de ses amis SS qui l'emploient dans son école de commerce, qui sont des génocidaires patentés et condamnés pour cela, eh bien, pour les gens qui n'ont pas tué de leurs mains, il n'y a aucun besoin, si vous voulez, d'aller en Amérique latine et de changer d'identité. Non, on peut tout à fait continuer. Au fond, le même combat.
Il lui en coûtera quelques milliers d'euros à un moment.
Oui, mais alors, ça a été tout simplement parce qu'il était professeur à l'université de Berlin, et donc on l'accuse comme Socrate d'avoir corrompu la jeunesse, et donc il est condamné à une amende, de même qu'il est condamné également, alors ça on touche le ridicule, le sommet du ridicule, il est condamné pour avoir abusé de son titre de professeur et de docteur des universités au moment où il s'est reconverti pendant quelques années comme naturopathe. Voilà, donc la chambre des médecins, l'ordre des médecins l'inculpe et le condamne pour cela.
Alors ce qui est quand même incroyable, on va venir à son académie du management qui va jouer un rôle considérable dans l'Allemagne de la deuxième moitié du XXe siècle, mais avant cela, on peut aussi s'arrêter sur le fait que c'est d'une certaine façon l'inspirateur, rien moins, que la nouvelle armée allemande qui va voir le jour 10 ans après, finalement, la fin de la guerre, Eugène Chapoutot.
Alors, Reinhard Höhn, donc, c'est un juriste, et c'est quelqu'un qui, à l'université de Berlin, était chargé de réfléchir à la structure de l'État, hein, donc à sa destruction, en fait, dans l'institut de recherche sur l'État qu'il dirigeait. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est passionné d'histoire militaire. Il a des publications importantes, hein, avant 1945 sur ce sujet, et il continue. C'est-à-dire, comme cela, comme conférencier, qu'il se fait remarquer par le think tank patronal qui l'emploie ensuite et qui lui confie la direction de l'école de commerce et la création et la direction. Et Reinhard Höhn est passionné d'histoire militaire et il a écrit d'ailleurs au début des années 50 un livre très intéressant sur Scharnhorst. Scharnhorst, c'est un des grands réformateurs de l'armée prussienne qui venait de vivre la catastrophe absolue de 1806, la plus grande armée du monde battue par les Français une fois, deux fois, trois fois, huit fois, jusqu'à la défaite finale sur son propre terrain en Thuringe. Scharnhorst donc va penser le réaménagement des structures de l'armée en disant voilà, nous sommes devenus au fond trop français, dit Scharnhorst. On est rigide, géométrique, c'est une machine l'armée frédéricienne. On attend de se faire tirer dessus avant de recevoir l'ordre de contre-attaquer, etc. Il faut adopter au contraire la vista napoléonienne, qui est une vista du mouvement, et du tirailleur et du voltigeur. Et c'est comme cela que nous allons gagner. Nous allons motiver nos subordonnés en leur donnant une marge de liberté, et ils vont se battre pour eux-mêmes, pour leur liberté, avec leur marge d'initiative. Autrement dit, Scharnhorst est celui qui crée ce que l'on appelle la tactique par la mission, la Auftragstaktik, qui consiste à donner des ordres très généraux. Prends-moi tel village, prends-moi telle tranchée, et débrouille-toi pour les moyens. Donc, la fin est fixée, mais les moyens sont à l'initiative totale du subordonné. Donc, ça le motive, et c'est censé être plus efficace. Et de fait, c'est comme cela que l'armée prussienne fonctionne. Et donc, Reinhard Höhn, après 1945, dit quelque chose de très clair. Il dit, voilà, deuxième catastrophe de l'histoire allemande, après 1806, 1945. Donc, nous, pour nous refaire, et pour redevenir une grande puissance, nous devons transposer la tactique par la mission, la Auftragstaktik, du domaine militaire à l'entreprise économique. Et par ailleurs, effectivement, vous l'avez dit, il est un des conseillers en organisation, en management, donc en Menschenführung, en direction des hommes, de cette armée qui se crée et qui est créée en 1955, qui s'appelle la Bundeswehr, qui est une armée de soldats citoyens participatifs.
Alors, cette école de commerce, il faut le dire, en Allemagne, il n'y a pas vraiment d'école de commerce. Encore aujourd'hui, ceux qui veulent faire des études en la matière vont étudier à l'université de Saint-Gall, qui est une université suisse, proche de la frontière allemande, une université publique, très réputée, un peu le sorte de HEC suisse, et germanique en fait, parce que ça remplace les écoles allemandes. Mais il y avait cette école, cette académie qui jusque quoi, dans les années 70
80
hein, 80
hein, elle existe toujours d'ailleurs hein. Elle existe toujours.
Mais elle a plus la même plus aura, la même la même importance qu'elle a eue. Mm-hmm. Donc cette école est créée par Reinhard Heine et il y développe ses théories du management qui sont qui sans doute apparaissent un peu datées aujourd'hui mais qui sont de leur temps et qui viennent de ces années 30 et de cette pratique de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'heure est à la guerre froide, à la lutte contre le communisme. Et en Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest a une situation tout à fait particulière parce que c'est la ligne de front. C'est la ligne de front avec le bloc de l'Est et ça doit être également la vitrine de la prospérité, du bonheur, de la liberté. Et pour cela, il faut convertir l'économie très rapidement à un atlantisme assumé, donc le plan Marshall, la haute croissance, le productivisme, etc. Et en France comme en Allemagne, on décide de créer une Harvard Business School. Donc en Allemagne, c'est 1956, l'académie donc créée par Reinhard Heine, et en 1957, en France, c'est à Fontainebleau,
l'INSEAD.
Voilà. Donc des écoles pour les cadres. Voilà. Et donc dans l'école de Reinhard Heine, ce seront 600 000 cadres qui vont être formés jusqu'aux années 80, 600 000 cadres issus de 2600 entreprises allemandes, où l'on apprend également un mode de management. Alors, comme on n'est plus dans la période nazie, on peut désormais utiliser le mot anglais. Hein. Auparavant, il fallait parler de Menschenführung hein, pour germaniser le terme de management, mais désormais, on parle également de management. Et donc, lui, il élabore une structure de management qui est le management par délégation de responsabilité, et qui est donc la translation exacte de la Auftragstaktik, de la tactique par la mission, pour élaborer pour l'armée dans le domaine économique. Et cela, c'est effectivement très moderne. C'est très libéral et c'est très moderne. Et on se rend compte que ça correspond à un moment de l'histoire du capitalisme. Parce qu'au même moment, au début des années 50, Peter Drucker, qui est un anti-nazi autrichien qui a fui l'Allemagne et l'Autriche, qui devient le pape du management aux États-Unis, dit la même chose. Il faut un management par objectif, il faut donner, au fond, il faut donner du mou dans la laisse, il faut donner un peu de marge d'initiative aux subordonnés. Donc ces gens-là, un anti-nazi comme un nazi, font la même analyse. Dans cette rénovation du capitalisme post-crise et post-fascisme, capitalisme régulé, organisé, keynésien, il s'agit de montrer que, véritablement, le monde libre est le monde de la liberté de production par rapport à ce gigantesque goulag à ciel ouvert qu'est l'Union soviétique.
Alors justement, ce mot de liberté, vous avez décidé de titrer votre livre « Libre d'obéir » avec ce paradoxe mis en avant et qui résume assez bien la relation de pouvoir qu'on trouve au cœur de ce mode d'organisation économique, Yoann Chapoutot.
Alors, libre d'obéir, effectivement, c'est un oxymore et c'est également une injonction contradictoire comme on en voit tant dans l'organisation du monde du travail. Sois heureux, hein, par exemple. Une belle injonction contradictoire. Ce fameux double bind qui est devenu, au fond, l'essence et l'ontologie même, hein, j'ai l'impression, de l'organisation du travail, l'organisation productive.
Et qui produit nombre de burn-out et autres.
Bah, c'est ça, précisément, le modèle de Reinhard Heine, mais au fond, encore une fois, c'est un modèle libéral, pionnier, intelligent et de son temps et très en avance hein, à cette époque-là, mais qui correspond d'ailleurs très exactement à ce qu'il disait aussi avant 1945, parce que les nazis n'étaient pas fous. Ils avaient compris que pour produire beaucoup et pour faire énormément, ça ne fonctionnait pas à la matraque et à la schlag. Il fallait au contraire motiver des gens qui devaient être heureux au travail, ils en étaient très conscients. Mais dans la mesure où vous êtes libre des moyens sans choisir les fins, déjà il y a une première contradiction, il y a une forme aliénation très claire, et deuxièmement, et ça Reinhard Heine le dit littéralement à ses cadres, en transférant la responsabilité, vous transférez également la culpabilité. C'est-à-dire que si le subordonné n'atteint pas l'objectif, eh bien c'est de sa faute, et c'est très pervers.
Libre d'obéir, c'est le titre du livre de Yoann Chapoutot dont on parle aujourd'hui à la suite dans les idées. On continue d'en parler dans la deuxième partie avec Christian Salmon qui nous rejoint. C'est après un extrait de l'album de Magon, King of Nothing. Act like an actor.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Libre d'obéir, donc le titre du livre de l'historien Johan Chapoutot à propos du management du nazisme. Aujourd'hui, de management, on va parler avec vous, Christian Salmon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur, il y a maintenant, j'ai pas compté, mais un certain nombre d'années, d'un livre qui est devenu une sorte de classique pour la langue française de ce domaine, qui s'appelle Storytelling, tout simplement. Mais à propos duquel il y a parfois un malentendu à propos du mot storytelling, l'idée que ça concernerait juste la communication. La manière de raconter des histoires qu'on utilise pour l'image, par exemple. En fait, ce que vous racontiez dans ce livre, c'est qu'il s'agissait précisément de, en partie, ce dont on a parlé avec Johan Chapoutot, c'est-à-dire de management, que le storytelling est un nouvel avatar, au fond, de ces réflexions, de ces théories et de ces pratiques du management, Christian Salmon.
Oui, le livre dont vous avez parlé prend la question du management un peu de manière postérieure aux travaux de Johan, mais j'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit, parce qu'on retrouve un certain nombre de paradigmes, en fait, hein, c'est-à-dire que précisément, l'idéologie, c'est pas quelque chose qui circule dans le vide et dans l'air. Il y a des exigences à un moment donné d'organisation, de production, de spatialisation, des enjeux, etc. Alors, plusieurs points communs. Le premier qui m'a frappé, c'est quand même le lien entre le management et l'armée. C'est-à-dire que c'est dans l'armée, c'est dans la guerre que les théories du management s'élaborent, se transforment, évoluent. Un exemple. Le storytelling management est né en fait à la fin des années 80, lorsque l'armée américaine ne peut plus assumer les grandes démonstrations, les grandes manœuvres militaires avec des millions de soldats qui se déplacent. Le coût est trop élevé et on va commencer à développer un entraînement par immersion, c'est-à-dire par virtualisation. Et on a la création, à un moment donné, en Californie, de l'Institut des technologies créatives, qui va être utilisé par les militaires, par le Pentagone, institut qui est d'ailleurs formé par le croisement des théoriciens du récit, scénaristes de l'université, des militaires du Pentagone et des ingénieurs du management. C'est ce croisement de ces trois disciplines qui produit des nouvelles technologies qui sont basées sur l'immersion, sur le fait d'assumer un rôle qui est, c'est ce que vous disiez, libre d'obéir, hein, c'est-à-dire c'est la paradoxe du comédien.
C'est l'enrôlement.
C'est l'enrôlement, c'est l'engagement, autre concept fondamental du management. Donc d'abord souligner ce lien entre le management et l'entraînement des militaires, ça va être rodé au cours de la guerre en Irak, etc. Le deuxième point, c'est qui m'a vraiment passionné dans ce que vous avez dit, c'est que ce paradoxe libre d'obéir, en fait, bouscule toutes les idées reçues qu'on a sur le nazisme, les caricatures qu'on a constituées. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le vocabulaire, alors je parle pas l'allemand, mais le vocabulaire que vous avez évoqué dans la première partie, c'est très intéressant de retrouver la même terminologie qu'on retrouve dans le management américain, le management par projet, etc. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on parle de deux périodes complètement différentes. C'est là où on peut peut-être en placer le débat. Et donc, on a une sorte de diagramme et de vocabulaire, de syntaxe, qui se ressemble beaucoup, alors qu'on parle, en gros, des années 30, 40, 50, reconduite, ça aussi c'est très intéressant, c'est que le paradigme qui a dominé les années du nazisme et de la guerre vont être en quelque sorte le marchepied de la relance, du plan Marshall, de la croissance des Trente Glorieuses franco-allemandes. Or, ce qui se passe, c'est que moi je commence à travailler sur le storytelling management à une période très postérieure, c'est-à-dire à la fin des années 80, où précisément ce paradigme du management, de la croissance, en gros le fordisme, hein, qui était quand même finalement plus centralisé, s'écroule. C'est-à-dire à la fois délocalisation, mondialisation, mais aussi financiarisation. C'est-à-dire que le management d'entreprise se tourne beaucoup plus vers la valorisation des entreprises et de la production que vers l'organisation proprement dite. C'est-à-dire, en gros, c'est la séparation entre produire et financer, et la bourse, etc.
Yoann Chapoutot, il y a cette chose troublante sur l'armée comme laboratoire, et ce point commun du faire plus avec moins, en fond, c'est une contrainte matérielle dans le cas de l'armée américaine, comme dans le cas de l'armée nazie. Ça, c'est très troublant.
Je trouve très intéressant ce que vient de dire Christian Salmon. Alors, pour commencer par la fin, quand Christian Salmon parle des caricatures dans lesquelles on se réfugie quand on étudie la période nazie, ce sont des mythes nécessaires. Ce sont des mythes nécessaires. Je parlais de la dénazification, l'Allemagne démocratique après 1945, c'est un mythe nécessaire. Et dans notre rapport au nazisme, si vous voulez, ça nous agresse tellement dans ce que c'est, dans ce que ça révèle de notre modernité occidentale, qu'on a besoin de dire et de se dire que c'est pas nous. Voilà, ils sont fous, ce sont des barbares, des animaux, c'est une période totalement différente, ça n'a rien à voir. Et puis Auschwitz, bon, voilà, donc rien à voir. Sauf que, alors, je sais parfaitement ce qu'a été le génocide nazi, j'en ai fait d'ailleurs un livre, et ce que c'est que la loi du sang chez les nazis, ce biologisme qui n'est pas forcément le nôtre aujourd'hui, et heureusement, mais par contre, le nazisme n'est certainement pas un aérolithe ou un ovni historique et culturel, c'est un phénomène qui est de notre temps et de notre lieu. Hein. Le cœur de l'Europe, l'Allemagne, patrie des prix Nobel et de l'alphabétisation à 100%, si vous voulez, économie très avancée, industrielle, très développée, le cœur de l'Europe au XXe siècle. Donc c'est bel et bien de notre temps et de notre lieu. Et il y a des caractères qui structurent le nazisme qui sont encore nôtres aujourd'hui. Et j'y insiste dans mon livre, le darwinisme social, par exemple, qui vient totalement armer la représentation du monde des nazis, laquelle représentation du monde est justifiée à leurs yeux par la Grande Guerre qui vient de se vivre et qui a été une mutation anthropologique réelle dans le rapport à la violence. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes aujourd'hui encore des darwinistes sociaux qui misons tout sur la lutte pour la vie, l'individualisation à outrance, la performance, la rentabilité.
Certains vont même jusqu'à le revendiquer, hein, je pense aux récents propos des plus hautes autorités de la recherche scientifique dans ce pays.
Absolument, oui, quand on a un directeur du CNRS qui parle de la nécessité d'une loi darwinienne, on est un petit peu pantois pour ce que ça révèle d'ignorance de ce que c'est que le darwinisme et aussi de médiocrité morale et intellectuelle et politique également, mais l'exemple vient d'encore plus haut, hein, au sommet de l'État, puisque il paraît qu'il y a des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Alors qu'il me semblait que, dans la République française, le droit faisait en sorte que personne n'était rien. Mais bon. Donc le darwinisme social est bien bel et bien de notre temps et de notre lieu, et il a armé le nazisme et il survit aujourd'hui. La notion de performance, de rentabilité, de rendement, elle est au cœur de l'idéologie nazie. Ça s'appelle la Leistung, Leistungsfähigkeit, et ceux qui sont incapables de performance, de rentabilité, de rendement, sont des êtres indignes d'être, des vies indignes d'être vécues, qui doivent être stérilisées puis assassinées. Et l'imaginaire de guerre du nazisme fait fond là-dessus. La performance, elle est là parce que la vie est une guerre. Et c'est en ça que je différerais peut-être de ce qu'a dit Christian Salmon. Deux périodes différentes, je ne sais pas, à vrai dire. Alors, oui, certainement, parce qu'il y a l'héritage anthropologique de la Grande Guerre et de ce rapport à la violence qui n'est plus le nôtre, c'est vrai. Mais par contre, les nazis habitent un monde qui est un monde de ressources finies et limitées, de guerre commerciale, économique entre les peuples, mais aussi de guerre biologique. Et c'est un monde dans lequel l'Allemagne doit s'affirmer comme puissance. Il me semble que ce sont là des coordonnées mentales qui sont encore celles d'aujourd'hui. C'est ce qu'avait très bien montré Timothy Snyder dans Black Earth, quand il parlait de la panique écologique des nazis qui étaient terrifiés à l'idée de la disproportion, la disjonction qu'il y avait entre leur force biologique d'une part, une croissance démographique, et d'autre part, les terres dont ils disposaient. Lorsqu'on voit les politiques des puissances aujourd'hui, que ce soit les puissances européennes, américaines, chinoises, on est encore dans ces coordonnées-là.
Christian Salmon ?
Oui, je suis complètement d'accord. Je vais répondre d'abord sur la légère divergence. Ce que je voulais dire, c'est que le paradigme se maintient malgré des situations complètement différentes. En gros, c'est justement à partir de le storytelling, pour moi, que le paradigme commence à s'imposer après la chute du mur de Berlin. Donc la fin du monde séparé en deux blocs. Mais c'est aussi la financiarisation et la crise du fordisme. Ces trois paradigmes vont faire que, justement, libre d'obéir ne va pas passer par les mêmes moyens. Ça va pas suffire, le management par projet. Il va falloir transformer les entreprises en des sortes de scénarios, de machines récitantes, comme le dit un des théoriciens du management. Et le fait que, lorsqu'on n'est plus rassemblé par un projet, par un lieu, le fordisme, c'est ça, c'est un lieu de production, des masses de gens, un produit identifié, donc en fait un récit immanent au travail, de la vie au travail. Avec la crise du fordisme, on perd ce paradigme, et donc on va réintroduire un récit artificiel centré sur le PDG, le héros des nouvelles, des start-up, etc., ou bien centré sur une mission, enfin bon. C'est en cela que ça diffère un peu du projet de management nazi. Mais je renchérirai sur vous. Je pense que c'est tout à fait dans notre monde en même temps. Une fois cette divergence évacuée, parce que je travaille en ce moment sur un nouveau livre qui est lié aux nouvelles formes d'organisation de ces nouveaux partis qui ne sont pas des partis en fait, et du retour, du regain des idéologies sinon nazies, du moins nationalistes, identitaires, etc. Ça va.
D'ailleurs, ces partis nazis préféraient s'appeler mouvement, nous rappelle Johann Chapoutin.
Absolument.
C'est pas un parti.
C'est ce qui se passe du Brexit jusqu'à Trump, en passant par Bolsonaro, l'Italie, où on a cet étrange mélange du mythe comme une sorte d'archaïsme, une nation, un sang, un chef, etc., plutôt qu'un État. On est dans le même schéma. Avec des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on a cette alliance bizarre entre ce que j'appelle le clown et l'ingénieur. Toutes ces formes de domination, on pourrait le dire aussi du nazisme, hein, puisqu'il y avait Hitler et son idéologue en chef, mais là l'idéologue est plutôt un informaticien. Alors je travaille en ce moment sur Dominic Cummings, qui est absolument archétypal de ce point de vue-là, parce qu'il se paye même le luxe de ne pas être très raciste, à la différence des autres, des Steve Bannon et des conseillers de Matteo Salvini en Italie ou de la Hongrie de Orban. Cummings, c'est quelqu'un qui dit, si vous voulez transformer la politique aujourd'hui, il vous faut pas des consultants, des spin doctors, il vous faut des physiciens. C'est-à-dire que physicien, il a fait un appel d'offres du 10 Downing Street, là, récemment, après janvier, où il appelle des cinglés, exactement ces alternatives qui ne sont pas incluses, dont vous citiez ces théoriciens du droit, qui sont un peu au chômage, ou voués au chômage. Il appelle les cinglés, les marginaux, les outsiders, à venir le rejoindre au 10 Downing Street pour faire la révolution. Et quelle est cette révolution? C'est précisément une révolution C'est Guy Debord, hein, vous savez, qui a une formidable définition du fascisme, qui disait « c'est un archaïsme techniquement équipé ». Ben, c'est la définition aujourd'hui du néo-fascisme. Et là, on a une continuité parfaite.
La modernité réactionnaire, hein, comme disait J.F.R.F.
Sur cet alliage et ces échos étranges que fait résonner Christian Salmon.
Oui, bah, là encore, on en revient toujours à la question de la modernité du nazisme que nous voyons, nous, pour nous rassurer, comme un archaïsme. Hein, parce que ce n'est pas nous, ça ne peut pas être nous, et on comprend qu'on ne veuille rien avoir à faire avec ces gens-là. Mais nous devons quand même assumer, sinon l'héritage, du moins la présence de ce phénomène au cœur de l'Europe, au cœur de l'Occident, et au cœur du XXe siècle. Et alors, Jeffrey Herf, vous avez cité Guy Debord, l'historien Jeffrey Herf a fait un très beau grand livre qui s'appelle « La modernité réactionnaire ». Et dans « Modernité réactionnaire », il y a quand même modernité. C'est-à-dire que ces gens-là sont le produit de la modernité, on va dire, social-darwiniste, capitaliste, eugéniste, scientiste de l'Occident des 19e, 20e siècles, post-darwinien. Et par ailleurs, le projet nazi était un projet de modernisation de l'Allemagne. Les nazis ne parlent que de motorisation de l'Allemagne, hein, la Volkswagen, hein, la coccinelle en fait partie, évidemment. C'est la guerre qui va venir obérer ce projet, mais c'était un projet de motorisation, de fluidification, là encore, de l'espace allemand.
C'est un route.
Absolument. C'est un projet d'équipement électroménager, hein, des ménages. Là aussi, la guerre va réduire cela au profit de l'industrie lourde. Et puis, c'est un projet, lorsque l'on voit les affiches, par exemple, de la Kraftwerk Freude 2, la force par la joie, cette agence de tourisme et ce comité d'entreprise à l'échelle du Reich, on est frappé par la modernité de l'esthétique, des couples qui sont représentés. On a l'impression d'être dans la Californie des années 1960, hein, véritablement.
Et la coccinelle, on l'a retrouvée chez Disney, d'ailleurs. Chez
les hippies.
Johann Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Le livre paraît aux éditions Gallimard dans la collection Essai. Je rappelle, nouvelle couverture pour l'édition de poche de ce classique storytelling aux éditions La Découverte. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de l'émission La Suite dans les idées sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui Valérie Lavalard et à la réalisation Marie Placé. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants pour une histoire particulière.